France Inter. Bonjour, bienvenue dans le débat de midi. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau débat en ce jour de fête nationale. Lundi 14 juillet, notre studio se transforme en piste de danse fantasmée. Nous sommes dans la tête de Frida, 18 ans, qui rêve ce soir d'aller faire la fête à Paris et d'admirer les feux d'artifice sur les Champs-Élysées. Mais sa mère refuse. Ah non! Tu as vu ce qui se passe à chaque fois? Casseurs, CRS, agressions sexuelles. La bamboche bon enfant s'est terminée en 2025. Les gens veulent se défouler. Il y a eu des morts après le sacre du PSG. Des suspicions de piqûres sauvages pendant la fête de la musique. Ce soir, ma fille, tu es privée de sortie. La France a-t-elle perdu le sens de la fête? Les dernières célébrations ont été gâchées, entachées de violence. À chaque grand événement, désormais, on met le paquet sur la sécurité. Dispositifs XXL, barricades, forces de police, car désormais, on fait la fête dans la rue et moins dans les boîtes de nuit, qui ferment les unes après les autres à l'image du dernier club Macumba qui a fermé ses portes. La discothèque est-elle devenue un truc de boomer? Que s'est-il passé pour que la France arrête de danser? Pourquoi la fête est-elle gâchée? Et s'il suffisait juste de mieux l'organiser à l'image des Jeux Olympiques, débat sur un rythme endiablé jusqu'à 12h45.
France Inter, le débat de midi, Paola Puérari.
Et chers auditeurs, vous êtes très nombreux à nous écrire en ce lundi férié, très nombreux à avoir été à la fête des pompiers hier. Merci de venir danser avec nous pour ce débat. N'hésitez pas à y participer. Un seul numéro, 01 45 24 7000 sur le WhatsApp de France Inter. Johan nous écrit « Passion Macumba ». Mon cœur a saigné en apprenant la fermeture. C'est là où j'ai rencontré ma femme. On prenait le dernier bus jusqu'à Auchan et on attendait dans la galerie marchande l'ouverture. Que de souvenirs, c'est la fin d'une époque. Et Aurore nous écrit au contraire. Les réacs nous ont fait tout un foin sur la fête de la musique alors qu'on n'a jamais vu autant de monde dans les rues pour danser. Oui, ça fait du bruit, mais une fois par an, c'est bon de se lâcher. Si comme ces auditeurs, vous trouvez que la fête est devenue quasi un clivage idéologique entre progressistes et conservateurs, vous réagissez encore une fois au 01 45 24 7000. Et pour se demander si les Français savent encore faire la fête, j'ai à ma table un homme qui a beaucoup écrit sur la question. Bonjour Jérémy Pelletier.
Bonjour.
Co-directeur de la Fondation Jean Jaurès, auteur d'un livre aux éditions de l'Observatoire, la fête est finie, il y a un point d'interrogation, donc peut-être un espoir, Jérémy.
Absolument, après c'était en 2021, donc la question est-ce que le point d'interrogation est encore de mise? Je suis de moins en moins sûr.
On va en débattre aussi avec Marie Sabot, directrice du festival We Love Green, le festival où la musique rencontre l'écologie. Combien de personnes à la dernière édition de juin, Marie?
Nous avons rassemblé environ 100 000 personnes cette année, oui.
Ah, ça c'est pas mal quand même. Damien Delceni avec nous autour de la table, bonjour.
Bonjour.
Chef du service police-justice du Parisien aujourd'hui en France. Le titre d'un de vos derniers éditos, c'était « Des fêtes de fêtes » où vous racontez qu'à chaque fois que vous commencez à écrire un papier sur un événement festif, vous commencez par la question
« Quel va être le dispositif de sécurité prévu ?»
Et c'est pour cela que nous avons convié autour de cette table Agathe Foucault, bonjour.
Paola, bonjour.
Commissaire, nouvelle porte-parole de la police nationale, merci d'être avec nous ce matin. Alors, je le dis tout de suite, la nuit a été plutôt calme hier soir, pas trop de débordements et néanmoins, on déplore à Agen, à Dijon, à Brest, des incendies de véhicules, des tirs de mortiers. C'est un paysage habituel pour le 14 juillet ?
Effectivement, vous le dites, hein, la nuit a été plutôt calme selon les éléments qu'on pouvait avoir ce matin. Vous le dites également, les tirs de mortier, c'est un phénomène qu'on connaît depuis de nombreuses années, mais qui a été particulièrement important cette année, avec des policiers qui ont été blessés et un phénomène qui s'accroît, ce qui a emporté des mesures préparatoires importantes sur instruction du directeur général de la police nationale, justement. Donc un phénomène qui est pris en compte par les forces de police afin de tenter de réduire cet usage de mortier.
Et qui arrive après deux événements qui ont marqué la France. D'abord les violences après le sacre du PSG en juin dernier et la fête de la musique qui a été plus que festive avec des lendemains qui ont fait déchanter les Français.
Une fois de plus, la fête a mal tourné. 370 interpellations, 1500 blessés. Ça devient une habitude, une mauvaise.
Au-delà de cette euphorie, la fête a aussi malheureusement été gâchée hier soir par un déchaînement de violence dans certains quartiers de la capitale.
On ne peut plus organiser une manif de rue sans que ça ne dégénère.
La fête, elle est gâchée.
Ce magasin qui vend des sneakers est le plus touché. Il a été intégralement pillé. Prenez tout.
Ces individus qui sont venus rien que pour casser, ils ne font pas partie des supporters.
Ils ne font pas partie des supporters. Effectivement, on se demande si les fêtes après les lendemains de victoire de football sont un peu plus tendues. Alors, hier soir, le PSG a perdu Agathe Foucault, porte-parole de la police nationale. Est-ce que ça explique le calme dans les rues françaises ?
Alors, je ne peux pas vous répondre. En tout cas, le dispositif policier sur l'ensemble du territoire national était adapté. La particularité de ce week-end, effectivement, c'est qu'on a d'une part les festivités du 14 juillet, avec un week-end qui se déroule sur 3 jours, un temps qui est plutôt favorable au rassemblement, et puis effectivement un match du PSG avec une défaite, donc on ne saura pas ce qui serait passé en cas de victoire. En tout cas, le dispositif policier était en place pour accueillir.
Bien musclé, hein, le ministre de l'Intérieur avait mis le paquet, là, pas question que ça déborde.
Alors, effectivement, le dispositif policier était adapté, hein, dans les territoires comme à Paris. Les dispositifs sont montés par les chefs de police en fonction des éléments de la menace qui sont montés, en particulier par le renseignement territorial. Et l'objectif des dispositifs policiers, c'est vraiment de permettre à chacun de participer à la fête en sécurité.
Damien Delsoni, qui dit fête dit sécurité aujourd'hui. Ça vous marque, par exemple, quand vous écrivez un article pour Le Parisien aujourd'hui en France ?
Ce qui nous marque, oui, c'est que dans les jours qui précèdent une manifestation qui est prévue, la première question qu'on nous pose, c'est dispositif de sécurité, note des renseignements territoriaux pour savoir d'où viennent les potentiels risques. Et ça, moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier, dans cette spécialité. Je connais ça depuis une petite dizaine d'années. Mais avant, il n'était pas question de ça. On intervenait. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'il ne se passait rien avant, hein, mais je me souviens que les 14 juillet étaient toujours un moment de débordement et surtout d'incendie de véhicules à l'époque, comme l'étaient les 31 décembre. Mais on intervenait, nous, plutôt a posteriori. C'est-à-dire, on n'était pas forcément, dans les 2-3 jours avant, à s'exciter autour. Et c'est vrai que désormais, la première question qu'on nous pose, c'est, bon voilà, il se passe un truc samedi, il se passe quelque chose ce week-end, qu'est-ce qui est prévu, quels sont les risques, quels sont les dangers, combien de policiers, et évidemment, le lendemain, il faut arriver avec des bilans d'interpellation qui tombent dans la matinée en général, et auxquels on a fini par s'habituer. On dit que la nuit a été calme cette nuit, c'est quand même juste sur la zone Paris préfecture de police, presque 200 interpellations, 15 000 mortiers saisis. Alors, on finit par dire qu'une nuit calme, c'est 175 interpellations, on a le droit, mais c'est quand même, on s'habitue aussi à des chiffres qui sont quand même très importants.
Jérémy Pelletier, vous qui analysez la fête sur le temps long, est-ce qu'aujourd'hui la fête c'est devenu un défouloir pour les Français ? C'est-à-dire qu'on est surpris par ces images aussi de Français qui descendent pour casser, piller et qui ont ce besoin d'état limite, si je puis dire.
Alors je pense que ce qui est compliqué à comprendre, c'est que tout le monde ne vient pas en fait pour les mêmes raisons. Et ce qu'on a vu à la fête de la musique, ce qu'on a vu lors effectivement de la victoire du Paris Saint-Germain, c'est finalement des catégories de la population, des catégories d'individus qui en effet se retrouvent presque parfois d'ailleurs en confrontation, et je pense qu'on pourra en parler, mais qui ne viennent absolument pas pour les mêmes raisons. Il y a une partie de la population qui vient, et une partie de la jeune génération qui vient pour le coup vraiment pour fêter, qui vient parce que, et ça on le voit d'ailleurs dans les enquêtes d'opinion, qui vient parce que il y a un regain, je dirais, de désir de sociabilité, il y a un désir de refaire de nouveau des choses ensemble, notamment depuis la crise sanitaire, notamment depuis ce qu'on a appelé la civilisation du cocon, on en parlera sans doute après tout à l'heure, et donc on voit bien, nous dans les enquêtes qu'on mène, qu'il y a un désir chez une partie de la jeune génération de retrouver justement une forme de collectif, une forme d'effervescence, un peu bon enfant, un peu léger, justement, et c'est ce qu'on a vu à la fête de la musique, c'est ce qu'on a vu après la victoire du PSG. De l'autre côté, vous avez des individus, vous avez des catégories, en effet, de la population qui viennent lors de ces événements-là, comme si finalement il y avait là une opportunité, finalement pour faire quelque chose, une opportunité d'abord parce que finalement c'est un rassemblement gratuit, c'est une fête gratuite, donc qui dit fête gratuite dit grande accessibilité, chose qui n'est pas forcément le cas dans d'autres moments, et opportunité en effet pour piller, opportunité pour s'adonner à un certain nombre de choses qui n'ont rien à voir avec la fête. Donc en fait, ce qui est très surprenant en fait dans le moment actuel, c'est que vous avez en effet une sorte de confrontation en effet entre des catégories de la population qui ne viennent pas pour les mêmes raisons, et ça crée d'ailleurs beaucoup d'émoi chez une partie de la jeunesse très bienveillante et qui vient de façon très bon enfant en effet faire la fête. Là, je dirais, cette partie-là se retrouve presque face à ses propres valeurs, à ses propres souhaits, à son propre idéologie lorsqu'elle se retrouve dans des cas assez complexes.
Ça crée aussi quasiment un clivage au sein même de la société entre presque les réactionnaires qui trouvent que effectivement bah, les gens n'ont rien à faire, n'ont pas à faire la fête dans la rue, et les progressistes qui sont contents de s'emparer de l'espace public. Marie Sabot, vous êtes en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes fondatrice du festival We Love Green, qui rassemble des dizaines de milliers de personnes. Une édition festive qui se passe bien, qui est particulièrement sécurisée, Marie ?
Écoutez, nous, on est dans un contexte qui est particulier puisque nous sommes au cœur du bois de Vincennes. On est sur plus de 11 hectares au niveau du festival et on a, comme beaucoup d'événements qui sont sur le domaine public, on a un plan Vigipirate écarlate qui nous est attribué. C'est-à-dire que effectivement, on a un dispositif de sécurité qui est à la fois pour le festival en lui-même, mais aussi dans les abords. Nous, on est vraiment dans un contexte où le rapport de la sécurité civile et de la Croix-Rouge, il est anecdotique. On est ce qu'ils appellent de la bobologie, c'est-à-dire qu'on est un festival qui est plutôt très très calme et on est plutôt sur l'allergie et les rhumes des foins que vraiment sur des bagarres. On est très très loin de ça. Pourtant, le samedi, on était complet avec 40 000 personnes et on a eu une ambiance assez fantastique avec la star du moment qui s'appelle Charlie XX et qui est vraiment l'emblème d'un côté justement très festif puisqu'elle elle le porte en ADN et elle amène toute une génération dans une espèce d'empowerment féminin et d'énergie et de créativité dans
donc
son
Marie
show,
Sabot c'est une petite musique qui monte que fête égale sécurité comme ça et probable débordement à laquelle vous n'adhérez pas forcément.
Non, je pense qu'en fait, on est en train de créer une espèce de dichotomie qui n'a pas lieu d'être, c'est-à-dire qu'on mélange aussi des choses qui ne sont pas comparables. Dans un premier temps, nous, on fait des événements qui sont des rassemblements de musique. Donc, on est un événement de culture. On se base sur quelque chose qui a un travail d'artiste, qui vont faire un concert, qui vont faire un spectacle. On rassemble des gens autour de ces valeurs-là. Et là, on a vraiment, je pense, pas de problématique lourde de est-ce que la fête est finie ? Loin de là. On voit que l'année dernière, les concerts ont une augmentation dans mon secteur d'environ 67% du vent de ticketing. Les festivals ont des fréquentations qui sont très très hautes dans tous les territoires, même si la rentabilité de ces événements se questionne, mais ça c'est pour d'autres raisons, des questions de coûts, des questions de coûts des artistes et des infrastructures et des masses salariales. Mais très sincèrement, les problèmes de fréquentation et d'appétence pour ce genre d'événements, c'est pas du tout le cas. Et on compare avec des événements qui sont sur le domaine public, qui sont pas loin d'une forme d'exutoire, et qui ont eu lieu dans toutes les générations, dans tous les territoires, dans toutes les civilisations. Et je pense que là, on doit questionner au niveau de la France. On a des violences, effectivement, sur le domaine public, qui sont suite à des manifestations qui ont lieu maintenant depuis presque une dizaine d'années. Hein. Je veux dire, les Gilets jaunes sont quand même maintenant assez loin, et on garde la même sémantique qu'on a sur le domaine public. Donc si, sur le domaine public, avec toutes ces manifestations qui ont émaillé la France depuis toutes ces années, eh bien, c'est dans les mêmes endroits, dans les mêmes carrefours, dans les mêmes places, qu'ont lieu ces fêtes.
Donc, et ça interroge. Et effectivement, ça interroge. Par exemple, Sylvie nous dit « Merci de reprendre les éléments de langage d'un gouvernement qui criminalise les jeunes, et en particulier les jeunes de banlieue. Posez-vous la question de l'inefficacité des politiques de maintien de l'ordre. » Agathe Foucault, est-ce que c'est pas ça qui a manqué ? On a vu peut-être que le gouvernement n'avait pas forcément prévu qu'il y allait avoir beaucoup de touristes qui allaient venir d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne pour la fête de la musique. Est-ce que c'est pas ça qui a manqué, plus d'encadrement, plus de bleu, si je puis dire, dans les rues françaises ?
Alors, les dispositifs policiers sont adaptés hein, pour aujourd'hui, le 14 juillet, on a 65 000 policiers et gendarmes qui sont déployés. Évidemment, tant qu'il n'y a pas nécessité d'intervenir, les policiers n'interviennent pas. L'objectif d'un dispositif de police lors d'une fête, c'est pas de restreindre la joie des participants par une présence qui serait
non, mais par exemple, d'enlever les rues de certaines voitures, de limiter la circulation, de faire par exemple ce qu'on appelle aujourd'hui une safe place, c'est-à-dire une zone cocon pour pouvoir faire la fête.
Alors, c'est ce qu'on appelle dans la police des mesures préliminaires, hein, naturellement, c'est ce qui est fait dans les territoires aujourd'hui, à chaque veille de grands événements, que ce soit le 14 juillet, le 31 décembre, les voitures sont retirées, il y a un travail qui est fait avec les bailleurs, avec les mairies, avec les chantiers, entier pour justement éviter de donner du matériel pour commettre des exactions.
Et néanmoins, il y a quand même des phénomènes qui inquiètent. Damien Delceni, par exemple, la dernière fête de la musique, 145 suspicions de piqûres sauvages ont été signalées selon le ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'on sait de ce fléau aujourd'hui ?
Alors, sans qu'on sache présentement sur la fête de la musique si ces 145 piqûres sont réelles. Il ne s'agit pas de dire que le phénomène n'existe pas, il existe. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé depuis le début, c'est la puissance des réseaux sociaux aussi, hein, dans l'organisation de la fête, et surtout dans la documentation de ces événements. C'est-à-dire que les réseaux sociaux permettent de documenter par des vidéos tout un tas d'exactions, tout un tas de véhicules aussi des rumeurs. Alors je ne dis pas que sur les piqûres, tout était des rumeurs, mais quand on a travaillé dessus les jours qui ont suivi, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même sans doute parfois plus de... On était plus dans l'ordre de la rumeur que de l'information. Mais les réseaux sociaux, ils jouent un rôle majeur là-dedans.
Un effet loupe,
et puis surtout ça documente, c'est-à-dire que le lendemain, quand vous allumez une chaîne d'infos et que vous avez une succession d'images extrêmement violentes qui tournent en boucle pendant plusieurs heures, bah forcément ça frappe l'imaginaire, enfin ça frappe pas que l'imaginaire, ça frappe tout court, et surtout ça frappe bien au-delà des gens qui ont été victimes, c'est-à-dire qu'on a l'impression, après les événements du PSG, moi je suis allé en province, les gens avaient l'impression que Paris était à feu et à sang pendant une nuit. Alors il y a eu des événements extrêmement graves, mais il y a une multiplication de l'impact par les réseaux sociaux.
Et peut-être une instrumentalisation, Jérémy Pelletier, vous diriez ça ou pas forcément ?
Non, moi j'utilisais pas en tout cas le terme d'instrumentalisation. Quand j'avais publié mon livre en 2021, j'étais très surpris de voir à quel point une partie de la jeune génération disait préférer de plus en plus la fête à la maison, de plus en plus la fête qu'on appelle la fête cocon, la fête très sédentaire, parce que, et notamment les jeunes femmes, en avaient marre de se faire embêter lorsqu'elles sortaient, une partie des jeunes femmes en avaient marre de se faire harcelé, et en effet, il y avait déjà en 2021 ce climat un peu plus insécure qu'il ne l'était auparavant, et donc c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on a vu se développer ce qu'on a appelé en effet la fête à la maison, et ce dans tous les territoires et pas uniquement dans les grandes villes.
Agathe Foucault, nous allons vous libérer car vous allez aussi faire la fête sur les Champs-Élysées en ce 14 juillet pour célébrer la fête nationale. Vous pensez, un dernier mot, qu'on peut effectivement, que les forces de l'ordre peuvent aussi faire la fête avec les gens. On l'a vu lors des Jeux Olympiques, à quel point la fête, c'est pas forcément une opposition entre forces de l'ordre et FETA.
C'est pas une opposition parce que le sens du métier de policier, c'est pas absolument pas de s'opposer aux gens, c'est de protéger les gens. Et c'est pour ça qu'on est présent quand il y a des dispositifs liés à des organisations de fêtes.
Merci infiniment. Bonne route jusqu'aux Champs-Élysées. Les auditeurs participent à ce débat au 01 45 24 7000. Olivier nous dit la rue, en particulier dans les moments où il y a des réunions importantes, c'est le dernier espace de liberté d'expression. Il faut en profiter. On va se demander, on va continuer à débattre du sens de la fête et se demander pourquoi est-ce que la fête a lieu de plus en plus aujourd'hui dans la voie publique et plus avant, comme dans les boîtes de nuit. On en comptait 4000 dans les années 80, il n'en reste que 1500 en 2021. Et si la discothèque était devenue un truc de boomer ? Que s'est-il passé pour que la France arrête de danser ? On en parle juste après ce titre qui tombe pile. Vanessa Paradis, bouquet final.
Juste retour des choses, comme une overdose. Mais c'est le bouquet final. Mais c'est le bouquet final. J'avoue, je les ai attendus longtemps. Mais les fleurs ne parlent qu'au présent. Les regrets n'aiment pas. Tu peux leur faire dire tout ce que tu veux. Sur la carte qui c'est l'encre bleue. Me dis que tu n'aimes que moi. Toujours bien de finir en beauté. Tu ne fais pas les choses à moitié. sans vouloir jeter des fleurs. Y a comme une envie de te pardonner, de me faire pour toi belle à crever. Tout y est mais plus le cœur.
Le débat de midi.
Midi 25 sur France Inter, de retour à la table du débat de midi et on s'interroge en ce lundi 14 juillet sur le sens de la fête en France. A-t-on le chic pour gâcher ces grandes célébrations? Autour de la table, Jérémy Pelletier, auteur de La fête est finie avec un point d'interrogation aux éditions de l'Observatoire, Damien Delceni, chef du service police-justice au Parisien et la fondatrice du festival engagé et populaire We Love Green, Marie Sabot. Alors, si vous vous réveillez après un bal de pompiers bien arrosé et que vous vous dites que c'est n'importe quoi, que vous savez faire la fête, vous nous écrivez sur le WhatsApp de l'émission 01 45 24 7000 ou si, comme Anaë, 21 ans, vous fuyez les endroits clos et sombres, vous vous enregistrez sur le WhatsApp de l'émission de France Inter 01 45 24 7000.
Sortir en boîte de nuit aujourd'hui, déjà, c'est devenu un peu ringard et puis surtout, c'est pas du tout safe, surtout pour les jeunes femmes. Moi, je sors plus du tout en boîte de nuit aujourd'hui et je préfère largement aller au bar avec des amis où je sais que je serai en sécurité.
Jérémy Pelletier, on a l'impression que les boîtes de nuit sont devenues ringardes, comme le disait Anaë. On en comptait 4000 dans les années 80, moins de 1500 en 2021. Est-ce que la discothèque, c'est devenu un truc de boomer?
En effet, quand on voit la réduction du nombre des discothèques, on voit bien là qu'il y a eu des changements d'habitude. Et alors, attention, c'est pas forcément une mauvaise chose. L'idée n'est pas de dire c'était mieux de faire la fête dans les discothèques il y a 15 ou 20 ans. C'est un endroit qu'on adorait retrouver aujourd'hui. Enfin, c'est une illustration, je pense, de changement d'habitude, de changement de tendance, de changement de façon de se divertir, qui a beaucoup lié d'abord à la législation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a beaucoup augmenté législation, notamment en matière de code de la route, de taux d'alcoolémie en voiture pour les zones rurales, ça a été un frein réel, évidemment, pour aller en boîte de nuit.
La cigarette aussi.
Alors, effectivement, l'interdiction de fumer, le coût aussi. Évidemment, ça coûte beaucoup plus cher de passer une soirée en boîte de nuit que de passer une soirée chez soi ou de passer une soirée dans un bar. Et par ailleurs, en effet, l'élément sécuritaire joue aussi dans les jeunes générations qui disent en effet ne plus aller dans ce type de lieu parce qu'ils ont peur que ça dégénère, ils ont peur de tomber sur des mauvaises personnes.
Et néanmoins, comment est-ce qu'on explique la nostalgie et le flot de papier qui a eu autour de la fermeture du dernier Macumba, le dernier Macumba d'Anglo? C'est vrai que ce club, c'était le symbole des nuits folles des années 80. On était monté jusqu'à 23 boîtes de nuit en France. Il ne restait que celle d'Anglo qui faisait danser les nordistes depuis 49 ans. Marie Sabot, vous aussi, vous partagez cette nostalgie du Macumba où, je sais pas, où on transpirait tous ensemble?
Non, pas du tout. C'est pas du tout, moi, en tous les cas, des endroits où je pense que... je pense vraiment qu'il faut quand même se rendre compte que la musique électronique est arrivée sur le domaine culturel au début des années 90 et 2000. Et il y a eu des événements de musique électronique qu'on appelait rave ou en tous les cas événements... assez scénographiquement très beau, avec de la lumière très travaillée, avec des jeux vidéo assez classieux, et qui a pris le pas sur des discothèques où être à l'aise, dans un endroit assez magique avec une ambiance. Et aussi la musique électronique a amené vraiment un côté assez safe et très agréable, et un mélange des genres et des gens qui étaient vraiment à la recherche de cette génération. Et cette musique électronique a pris le pas de cette fête et a créé dans de nombreuses capitales françaises et européennes vraiment des endroits nouveaux, beaucoup plus frais, beaucoup plus intéressants, beaucoup plus vraiment impactants, quoi. Donc je pense que c'est ça qui a pris le pas, quoi.
Il est vrai que la nouvelle tendance, effectivement, on le disait, c'est les soirées safe où les femmes se sentent bien. Et nous avons donné la parole à Justine Noël du collectif Safer qui accompagne les soirées françaises.
Je crois qu'on a tous et toutes envie de continuer à faire la fête. Mais aujourd'hui, ça veut dire aussi prendre conscience des risques, des violences sexistes et sexuelles qui existent dans ces espaces et qu'on préfère parfois ne pas voir ou ne pas visibiliser. Et je pense que la fête, c'est un bout de la société, c'est vraiment cet échantillon. Si on veut qu'elle soit plus libre et plus safe, c'est aussi là qu'il faut commencer.
60% des femmes contre 10% des hommes ne se sentent pas en sécurité dans un lieu festif. Est-ce qu'on a pris conscience, Damien Delceni, de ce phénomène qu'on appelle les violences sexistes et sexuelles, qui pouvait être avant invisibilisé dans les fêtes, si je puis dire ?
Alors, on en a pris conscience. Il y a aujourd'hui des bars où ça n'existait pas il y a quelques années. Il y a des codes. Hein. Quand vous êtes une femme, vous pouvez dire une phrase au barman qui comprend qu'il se passe un problème dans la salle. Moi, je me souviens qu'aux Jeux Olympiques l'année dernière, il y avait des espaces qui étaient réservés dans les fan zones pour éventuellement aller immédiatement signaler un fait de violence sexuelle. Encore une fois, tout ça n'existait pas. Alors, tout ça n'existait pas. Non pas parce que les violences sexuelles n'existaient pas, mais parce qu'il y a eu une prise de conscience collective, et heureusement, et que maintenant, effectivement, ça n'est plus quelque chose de toléré. Ça l'a sans doute été hein, pendant des années. Ça faisait sans doute partie quelque part de la fête d'être une femme et d'être ennuyée, d'être agressée même parfois dans certaines soirées. Maintenant, ça ne l'est plus. Tant mieux. Et effectivement, ça déploie tout un certain nombre de dispositifs pour protéger les femmes. Mais moi, ce qui me frappe encore une fois, c'est que on a l'impression qu'aujourd'hui, pour faire la fête, il faut être encadré. C'est-à-dire qu'une fête qui se passe bien, c'est une fête encadrée. On a déjà parlé des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques ont été effectivement un grand moment de fête. Alors, très à part de toute façon de tout le reste, mais aussi parce qu'il y avait un déploiement sécuritaire sans précédent et sans commune mesure.
Et on a l'impression
que finalement... Oui, mais il y a eu quelques voix qui sont élevées pour dire que ça faisait sans doute un peu beaucoup. Mais une fois que ça a démarré, finalement, tout le monde était assez content de se dire que bah, dans les fanzos, ça se passait bien. Vous rentriez chez vous le soir, ça se passait bien. Il y avait pas de notion de danger. Et effectivement, ce qui me surprend toujours, c'est qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, on a besoin, pour faire la fête, d'avoir quand même une forme de sécurité autour, de filet de sécurité, parce qu'on sait que la fête, un peu sauvage ou pas prévue, elle peut dégénérer. Et ce qui s'est passé, puisque c'est l'événement marquant de ces dernières semaines avec le PSG, c'est que c'est une fête imprévue, parce que vous pouvez pas savoir si le PSG allait gagner le match ou pas, une fête totalement gratuite. C'est-à-dire où, voilà, vous prenez la RER, prenez le bus, vous venez à pied, c'est ouvert, on ne paye rien. Et forcément, ces fêtes gratuites et improvisées, elles sont difficiles à prendre en compte pour les forces de l'ordre en amont, parce qu'on ne sait pas si on va avoir beaucoup de monde, pas beaucoup, si on aura des éléments dangereux ou pas. Et c'est toujours dans ces scénarios-là que se passent les problèmes et que se sont passés les problèmes ce soir-là.
Jérémy Beldier.
Oui, et par ailleurs, ce sont des fêtes désintermédiées. Et c'est en ça où moi, je pense qu'il y a une spécificité, en effet, dans ce qu'on a assisté après la victoire du PSG. C'est-à-dire que vous avez les individus qui sortent de chez eux et en fait qui n'ont pas d'intermédiaire. C'est-à-dire dans les autres fêtes dont on a parlé, et notamment les Jeux Olympiques. Alors évidemment, il y a les forces de l'ordre, mais il y a toute une armée de bénévoles. Il y a des bénévoles qui sont là pour réguler, il y a des bénévoles qui sont là finalement pour jouer le rôle de boussole, le rôle de régulateur, le rôle d'individu un peu de confiance. Et donc vous avez des intermédiaires. Et les intermédiaires, c'est très important parce qu'on est en effet dans une société des intermédiaires où vous avez le sentiment que les individus se retrouvent tout de suite face à l'État et donc tout de suite face aux forces de l'ordre. Les fêtes qui se passent bien, c'est les fêtes où il y a un intermédiaire entre les forces de l'ordre et la population. Donc des bénévoles, donc des gens qui sont là pour assurer, je dirais, le bon cours des choses et le bon cours de la fête. En l'occurrence, le soir, en effet, de la victoire du PSG en Ligue des Champions, les individus n'ont pas de référentiel de confiance vers qui se tourner, n'ont pas les bénévoles qu'on a vus, en effet, lors des Jeux Olympiques, parce que ce ne sont pas des fêtes organisées. Donc là, vous avez les individus face à l'État, en l'occurrence, les forces de l'ordre. Et donc, je pense que cette spécificité de désintermédiation et de fête des intermédiaires, c'est ça qui crée la tension et les frasques auxquelles on a pu assister.
Et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que c'est arrivé beaucoup dans la capitale parisienne. Par exemple, Valérie nous dit, pour la victoire de la Coupe d'Europe à Bordeaux et la victoire du championnat à Toulouse, liesse du match de rugby en pleine ville, aucun problème majeur, donc c'est possible que tout se passe bien. Est-ce que c'est plus facile en province ? C'est une question aussi qu'on se pose, Marie Sabot, de savoir si effectivement la fête est un miroir de nos sociétés qui se déchaînent un peu plus contre la capitale, comme si tout le pouvoir était centralisé finalement.
Mais comme je vous disais, je pense qu'effectivement il y a un écho avec les manifestations qui se sont tenues vraiment au même endroit, au même carrefour, aux mêmes places, et qui ont été particulièrement soutenues dans la capitale ces dernières années. Donc ces mêmes endroits, ils gardent ce stigmate et ils vont cette difficulté. Elle peut rejaillir effectivement dans ces événements. Mais je pense qu'en fait, il faut essayer de regarder un peu plus loin. Par exemple, le grand festival qui se trouve à Londres, qui est le festival Notting Hill, qui est un festival vraiment très mythique et qui vient de toute la culture jamaïcaine. Elle rassemble 2,5 millions de personnes. Elle a lieu depuis...
Je crois que le téléphone a coupé, Marie Sabot. Alors, nous avons énormément d'auditeurs qui veulent participer. Déjà, Agar dit, ticketing, safe place boomer. Arrêtez votre franglais, c'est vrai. Effectivement, une safe place, c'est ce que les jeunes appellent un endroit sécur où ils se sentent bien, un cocon de sécurité. Et les boomers, ça quand même, je pense que vous savez, Agar. Mais effectivement, je vais surveiller mon franglais. On va continuer à parler en français et dans un instant, on va se demander si la fête est finie. Après les Jeux Olympiques, les Français avaient retrouvé cet esprit de fête, de conquête, cet espace d'insouciance. Vous savez, aujourd'hui, dans les discours, on dit les communs et la société. Ils avaient partagé cette danse commune, senti leurs voisins transpirer. Alors, que nous manque-t-il ? Que nous manque-t-il ? On va se demander, mais restez avec nous et n'hésitez pas, eh bien, peut-être à danser avec Burn a Boy d'Update. Back to life, back to reality, back to life, back to reality, back to the here and now.
Then no fit touch my energy. I only time. If I no get money, na disability. Baba, so forget my shy blocking. My lost soul.
Sur France Inter.
Il est midi 38 sur France Inter. Vous êtes dans le débat de midi. On s'interroge sur le sens de la fête, de plus en plus entaché par des débordements de violence. Autour de la table, Jérémy Pelletier, auteur de La fête est finie, avec un point d'interrogation. Damien Delceni, chef du service police-justice au Parisien. Et Marie Sabot, fondatrice du festival engagé et populaire We Love Green. Alors on se demandait, eh bien, si la fête était forcément politique aujourd'hui ou s'il pouvait rester dans notre société des espaces bon enfant finalement où on se décapsule généreusement en oubliant un peu tout et en allant sur la piste de danse sans conscience, j'ai envie de dire, Jérémy Pelletier.
Je pense que l'évolution montre que justement il y a de moins en moins de fêtes désintéressées. Alors que la définition de la fête, en effet, repose sur une part de gratuité. C'est-à-dire, la fête, c'est un moment où on laisse de côté, on laisse en dehors de la piste de danse les problèmes de l'époque, les problèmes politiques, les problèmes qui touchent la société. Et évidemment, ils sont nombreux, mais on laisse tout ça de côté, en effet, le temps d'une soirée, parce que la civilisation, d'une part, la population, évidemment, a besoin justement de moments gratuits, désintéressés, où on s'oxygène pour revenir ensuite aux choses sérieuses. Or, je pense qu'il y a de plus en plus, en effet, de fêtes qui sont organisées pour défendre des causes, pour défendre des catégories de la population, pour défendre des sujets, et toutes ces causes sont vertueuses, et tous ces sujets sont vertueux. Or, je pense que...
Ça casse un peu la fête, vous dites.
Ça casse l'aspect déni aussi qu'il y a une partie de la fête normalement. Et donc, en effet, je pense qu'il faut conserver aussi ces espaces de protection où, pendant deux heures, vous vous intéressez à autre chose que les problèmes de l'époque.
Marie Sabot, vous qui organisez ce festival engagé pour l'écologie, on dit souvent que la gauche a perdu le sens de la fête et que, justement, ça plombe les ambiances. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il ne faudrait pas créer des espaces de festifs sans bannière écologique engagée?
Je pense qu'il n'y a qu'à venir voir nous ce que nous avons sur le festival. Je pense qu'on n'y est pas du tout. Et sur le festival, nous avons 5 scènes. Donc, 5 scènes, c'est 5 espaces de mise en scène de musique très différents. On a une scène de conférence aussi qui fonctionne un peu comme un cabaret où on a de l'humour, où on a des prises de parole de scientifiques ou d'aventuriers qui sont vraiment tous ces événements qui sont complémentaires. Évidemment, on a un espace de musique électronique où on a des DJ, où là, je ne pense pas qu'on a une fête qui soit retenue, mais au contraire, on a des endroits qui sont des safe places très, très cool, où en plus ça se passe dans l'après-midi. Nous, le festival finit à minuit, 1h du matin. Donc je pense qu'on
mais
a.
Mais donc la fête engagée, c'est festif.
Mais totalement. Et c'est surtout, en fait, c'est pas une question de fête engagée, c'est une question de pouvoir, encore une fois, se vivre ensemble et avoir plusieurs moments dans sa journée où on va aller voir un concert, ensuite on va aller danser dans un autre espace, ensuite on va aller réfléchir et discuter avec d'autres gens, et puis on va avoir un autre endroit de grand concert très impressionnant. Donc c'est de ça dont on parle, c'est pas mettre des éléments dans des...
Dans votre festival, il y a énormément de jeunes. Et pourtant, Jérémy Pelletier, l'art de vivre chez les jeunes, c'est un petit peu plus, sans vouloir entrer dans les clichés, mais il y a quand même ce mot dièse qui circule sur les réseaux sociaux, vie tranquille. Alors, sous le mot dièse vie tranquille, il y a tricot, aquarelle, tisane. Et c'est vrai que les 16-25 ans, il faut s'en réjouir, boivent de moins en moins d'alcool. 41% des représentants de la génération Z associent l'alcool non pas à la fête, mais à la débauche. Est-ce qu'effectivement, la fête n'a plus la cote chez les jeunes ?
Il y avait un autre terme, il y avait un autre mot dièse qui était le terme de flemme, qui venait beaucoup aussi dans les cortèges au moment notamment de la réforme des retraites sur les pancartes des jeunes générations. Préalable, c'est il y a plusieurs jeunesses, il y a plusieurs façons de faire la fête et tout le monde ne fait pas la fête de la même façon. Force est de constater que chez les moins de 30 ans, en effet, ce à quoi on assiste maintenant depuis 4, 5, 6 ans, c'est plutôt une fête qui se recroqueville dans son espace d'ultra-proximité. Une enquête de Crédoc très intéressante avait demandé aux jeunes c'est quoi le vendredi soir idéal pour vous. La réponse qui est arrivé en tête, c'est la soirée sur mon canapé avec un plateau télé.
Et donc, en effet, téléphone portable.
Et un téléphone portable, absolument, parce que tout ça va de pair. Et donc, en effet, cette société qui a tendance à se recroqueviller, qui a tendance à se sédentariser, qui a tendance, à préférer les moments plutôt tranquilles, comme vous l'avez dit, chez soi, plutôt que les moments extérieurs pour aller voir d'autres gens, en effet, se développe de plus en plus. On voit une augmentation de la sédentarité, ça veut dire qu'on passe beaucoup plus de temps entre quatre murs que on le faisait il y a 10, 15 ou 20 ans, et une société, une nouvelle génération qui se dit beaucoup plus fatiguée qu'elle ne l'était il y a 10 ans.
Damiel Delceni, vous avez eu cette expression « Aujourd'hui, on fait la fête sous bulle ». Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de fêtes destinées, par exemple, aux mamans solo, qui veulent se retrouver entourées de mamans solo, ou entre différentes catégories de la population française. On a l'impression que la fête, dans son universalité telle qu'on peut la concevoir dans cette image d'Épinal, c'est terminé. Maintenant, c'est la fête sous bulle et chacun sa bulle.
C'est tout le problème j'entendais tout à l'heure parler du vivre ensemble, c'est un peu tout le problème du vivre ensemble aujourd'hui. Moi, malheureusement, mon métier fait que j'y crois pas trop, mais ça, c'est une déformation professionnelle, mais en tout cas.
En tant que journaliste du police, service, justice, voilà, effectivement,
ça
le vivre ensemble.
Ça rend les choses plus compliquées. Mais je pense qu'il y a ce besoin de sécurité, mais Il y a un événement dont on n'a pas parlé, c'est que ça fera 10 ans à la fin de l'année qu'il y a eu des attentats à Paris. Et les attentats, ils ont visé spécifiquement des lieux de fête. Ils ont visé une salle de concert, ils ont visé des terrasses, et ça a été un traumatisme pour toute une génération de se dire que la fête, ça pouvait aussi malheureusement être ça. Alors, la menace terroriste, elle est aussi une des raisons pour laquelle chaque manifestation désormais fait l'objet d'un dispositif de sécurité conséquent, pas seulement pour prévoir des débordements, mais parce que on est toujours sous cette chape de plomb 10 ans après. On a été frappé très fortement, très durement, et c'est quand même quelque chose qui, c'est une musique à laquelle on s'est habitué, malheureusement, j'ai envie de dire, mais qui est permanente dans notre esprit. C'est-à-dire que le risque terroriste, il est permanent en France, il est permanent un peu plus à Paris, et il a beaucoup, beaucoup modifié, je pense, notre image de la fête aussi.
En tout cas, aujourd'hui en France, un dispositif XXL de sécurité pour pouvoir permettre aux Français de profiter de cette fête, d'aller voir les feux d'artifice, peut-être sur les Champs-Élysées, ou en tout cas de profiter de cette fête nationale de ce 14 juillet. Et sinon, rendez-vous au festival We Love Green en juin prochain, où là, la fête est toujours bonne. Merci Marissa Beau d'avoir été parmi nous, Damien Nelseny, merci infiniment, Jérémy Pelletier. La fête est finie avec point d'interrogation. Pas pour ce soir, à mon avis. Ce soir, la fête va battre son plein. Merci de nous avoir suivis. Demain, dans le débat de midi, on va s'interroger, après les annonces d'Emmanuel Macron, sur comment réarmer la France. Si oui, nous cherchons 40 milliards d'économies sur le budget et des milliards, effectivement, pour réarmer la France. Alors, entre État-providence et économie de guerre, faut-il choisir? Merci à mon équipe, à la réalisation Riyad Kera, à la technique. Aujourd'hui, c'était Corentin Rouchy.